je suis avec Frank The Gent, donc bassiste dans le groupe Hell of a Ride. Bonjour.
Salut, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Bah nickel.
Alors on va commencer par, on va dire, les choses pas forcément très très plaisantes. Vous êtes à Paris pour l'instant, donc pour une journée promo, et vous étiez censé jouer il y a quelques jours au Bus Palladium. Est-ce que tu souhaites dire un petit mot par rapport aux derniers événements qui ont marqué Paris?
Alors malheureusement il est difficile de trouver vraiment les mots justes pour définir un peu ce qui s'est passé, tout ce que ça a créé. Bien sûr on a été touché profondément dans le petit monde de la musique qui est parisien, qui reste quand même tout petit, tout le monde se connaît, et donc évidemment ce qui s'est passé au Bataclan et ailleurs font qu'il y a beaucoup de résonance dans le milieu. Il y a eu malheureusement des annulations, en effet, le Bus Palladium, comme tu dis, le 14, vers Marne, ainsi qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir un concert au Chaudron, et les concerts ont été annulés pour des raisons de logistique, et aussi parce que les personnes qui travaillaient dans chacune de ces salles ont été personnellement touchées. Donc, il faut penser à toutes les victimes, et en espérant que ce genre de choses ne surproduise plus.
Merci pour ce petit mot.
De rien.
Pour revenir du coup sur votre promo, puisque vous avez un album qui vient de sortir, gros son pour ce premier album, ça fait suite, donc l'album s'appelle Bête Noire, ça fait suite à un premier EP que vous aviez enregistré, Fast as Lightning. Est-ce que vous avez changé quelque chose, parce que vous avez gardé quand même le même producteur?
On a gardé le même producteur, donc Charles Massabo, Calégan, qui à l'époque de l'EP, alors moi je n'étais pas dans l'EP, hein, j'ai rejoint le groupe en fin juin 2012. Le PD déjà enregistré, mais c'est pas moi là-bas, c'était Julian, qui je ne connais pas, mais qui a fait un bon boulot. C'était Charles qui avait enregistré, il avait fait ça à Nancy, je crois, dans les alentours de Nancy, de la ville de Nancy. Et Charles n'était pas encore parti aux États-Unis. Là, actuellement, il est installé aux États-Unis. Et quand on a enregistré l'album, il était aux États-Unis, donc on l'a fait revenir aux États-Unis. Et étant donné qu'il avait déjà, que les autres membres du groupe l'avaient déjà vu bosser, il était content de son boulot, il avait fait revenir. Et entre-temps, Charles, évidemment, a pris énormément d'expérience, il s'est fait vraiment un nom là-bas. Et donc, entre l'EP et l'album, toute son expérience, il l'a mise au profit de l'album, ce qui fait qu'en effet, ça nous a permis d'avoir non seulement un gros son, mais ensuite une grosse expertise, une grosse maturité entre les pré-prods qu'on avait faites et l'album qu'on a enregistré, avec en plus la grosse valeur ajoutée qu'il a eue, c'était de nous donner un son qui était assez moderne, assez novateur, en particulier avec l'ajout des samples, parce que évidemment nous n'avions pas absolument pas du tout fait, et tous les samples qu'on entend durant l'album avec les jeux des voix, les machines qu'on entend derrière, c'est lui qui a eu cette idée qui nous a permis de mettre ça au point, et ça a été sa grosse valeur ajoutée là-dessus.
C'est grâce à lui aussi que vous avez un featuring sur le titre At the Drive-In avec Sin Kirin.
Tout à fait, le absolument, c'était tout à fait raison. Cal était le chanteur du groupe dans lequel Sin Kirin jouait, qui était un groupe qui s'appelait, alors je ne peux plus te dire le nom, ça me revient là dans une idée, je ne sais plus. Charles était le chanteur et Sin, le guitariste, ils se sont connus lors de multiples enregistrements. Ils ont monté ce petit projet, ouais. Et donc, je crois que Sin Kirin est passé par hasard lors du mixage de l'album. Et Charles a eu l'idée de jouer sur un morceau. Il a fait écouter l'album et Sin a choisi ce morceau-là pour faire le solo dessus, ouais.
Une belle rencontre.
Très belle rencontre, un beau hasard. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser le nom de Dimitri parce que pour la raison évidemment de commerciale, des droits et compagnie, mais c'est une belle rencontre, une belle chance et vraiment un grand plaisir de savoir qu'il y a un mec comme ça sur notre album, absolument.
Pour revenir sur l'album et puis sur votre partie de travail, comment ça s'est monté? Alors, tu disais que tu n'étais pas là à l'époque de l'EP, mais pour la création de l'album, vous faites ça comment? Vous faites ça tous ensemble? Ou est-ce qu'il y en a un qui est, sans être le leader du groupe, mais qui apporte les riffs principaux? Ça se passe en répétition?
Alors, je dirais un peu tout ça. Il y a, en effet, de toute façon, je pense, quelle que soit la formule, quel que soit le groupe, le style, je pense qu'il y a toujours un peu un leader ou quelqu'un qui va mettre la petite étincelle sur laquelle tout le monde va rebondir. Donc, globalement, je dirais que Noré et Lo sont venus avec des plans, soit des plans anodins qu'ils utilisaient en répète ou en balance avant les concerts, même des plans qu'ils avaient notés chez eux. Et ce plan était ensuite repris en répète, et on en faisait un morceau, ou alors on le balançait, ou alors on partait de l'idée, mais pour arriver à quelque chose qui était complètement autre. Donc, globalement, c'est ça, ouais. On parle d'une petite étincelle, un petit truc, et ensuite, on construit tous dessus les paroles qu'ils disaient, l'adieu, le chanteur, les parties de basse qui me viennent ensuite, bref, c'est vraiment un petit détail, une petite pièce de Lego, si tu veux, et à partir de là, on construit tout.
pour la partie rythmique, parce que ce qui se détache, on va dire, au niveau de votre son, c'est bien sûr les riffs de guitare qui sont très très en avant, et puis le chant. Cela dit, tout ça, ça tient pas si derrière il n'y a pas la batterie et la basse. Toi, comment est-ce que tu vois justement ton instrument dans le groupe? C'est là pour être en renfort à chaque fois par rapport aux guitares, ou est-ce que tu souhaites vraiment mettre ton instrument, on va dire, en avant au-delà de la simple section rythmique?
J'aime beaucoup ta question parce que c'est justement, j'essaie de travailler dans la subtilité de l'instrument. La base, je suis venu non pas comme beaucoup de bassistes par défaut, c'est-à-dire en gros, j'ai commencé parce qu'il y avait un mec, parce que la guitare s'est produite, on avait fait de la basse, ou parce que j'avais un groupe qui a une basse qui traînait et qu'on dit tiens, pour la basse, c'est facile. J'ai vraiment bossé cet instrument par amour de l'instrument et toujours voulu faire cet instrument. Donc j'ai une vraie passion pour l'instrument. Et donc je cherche justement à le mettre en valeur de façon subtile. Dans le style que, dans lequel je suis, dans le groupe dans lequel je suis, le but, c'est d'avoir un gros rouge puissant derrière qui soutient tout, qui soit massif. Ça peut se rapprocher un peu du boulot de Fini dans Korn. Alors je ne sais pas de ça que je ne joue pas au doigt, je joue Mediator. Mais pour moi, le principe reste à faire le même, dans le sens où je dois avoir une grosse basse et une grosse basse derrière. Il vient donner le groove et la puissance. Il vient soutenir la guitare tout en ayant une ligne de basse qui va évidemment être dans la même tempo, dans la même tonalité, mais qui ne suit pas nécessairement la guitare totalement dans chaque rythme qu'ils font. Il faut avoir des petites originalités, des petites touches personnelles qui font que je ne suis pas un clone dans une octave en dessous de la guitare. Je cherche vraiment à travailler le groove, avoir un instrument qui se détache tout en ayant un gros soutien derrière.
Après, au niveau de l'album, vous avez choisi un titre en français alors que vous chantez que en anglais. Pourquoi choisir Bête Noire? Vous auriez pu faire ça en anglais du début à la fin.
Tout à fait, on aurait pu, mais on voulait absolument un nom français pour assumer le côté français. Étant donné qu'on nous dit souvent, vous faites un sympa du tout que je suis de français, l'accent des duels est vraiment excellent, donc on entend vraiment pas qu'il est français. Des fois, il y a des gens qui le disent très peu, mais globalement, on ne s'entend pas. Le style que l'on a, ça ne s'entend pas du tout que c'est français, c'est quand même très californien, très américain. Donc on a vraiment voulu avoir une touche française pour dire on est français, on l'assume parfaitement, et le rappeler tout simplement par le titre de l'album qui se voit, et c'est donc Bête Noire, c'est français. Et l'avantage en plus, c'est que Bête Noire est une expression qui peut s'utiliser aussi en anglais, qui ne se traduit pas, et donc dans les anglophones, elle peut s'utiliser en tant que Bête Noire. Ouais.
Vous avez déjà mis sur internet un premier lyrics vidéo avec Aphrodisiac Cadillac, et sinon on a la version audio du titre At the Drive-In. Vous avez déjà des retours là-dessus? Alors j'ai vu qu'il y avait des chroniques sur votre page Facebook, mais est-ce que vous avez des gens qui vous laissent des petits messages par rapport à ces deux extraits que vous proposez, en plus bien sûr de tout ce qu'il y a sur Deezer, iTunes, etc.?
Voilà, les retours qui sont assez positifs. Disons qu'Aphrodisiac Cadillac, non seulement la vidéo est assez ambitieuse, donc la fille qui se déshabille de façon assez lancinante durant toute la vidéo, évidemment ça attire, en plus d'être érotique, enfin pseudo-érotique, ça attire à connaître le morceau lui-même à Aphrodisiac Cadillac, il y a quand même, je dirais, l'ADN d'un tube. À chaque fois qu'on l'a fait écouter, c'est un emballement tout le temps. Et les gens disent, ah non, mais là, ce morceau-là, c'est vraiment, j'ai entendu ceci, j'ai entendu Slash, j'ai entendu ceci, cela, du SCDC, donc c'est vrai. Il groove, il est rock'n'roll, il est moderne, il a vraiment tous les ingrédients d'un YouTube, et puis il reste répétitif, tout ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont écouté me disent tout, c'est incroyable, je l'ai écouté, je me lève le matin avec dans la tête, il me reste en tête. Donc il y a vraiment l'ADN YouTube. Et ça, cumulé avec la vidéo plutôt sympa et ambitieuse de la personne de Cadillac, on a des gros retours, évidemment très positifs, et beaucoup de retours sur la vidéo.
Vous pensez développer un petit peu plus justement cette partie clip dans l'avenir, mettre d'autres lyrics vidéo ou d'autres extraits peut-être même de live?
Bien sûr, parce que là on est en train de faire une réunion pas plus tard que ce soir pour le titre Red Light Mississippi, pour lequel on va faire un clip, un autre clip. Évidemment, c'est des choses qui sont assez complexes à mettre en place, qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent beaucoup de logistique, beaucoup de matériel, donc c'est lourd. Mais par contre, en contrepartie, ça nous offre une visibilité, ça nous offre une vitrine. C'est quand même très intéressant pour nous, c'est-à-dire de façon, entre guillemets, commerciale, parce que nous, visibilité et une vitrine. Mais c'est aussi une bonne expérience, et ça permet aussi de montrer ce que notre identité, ce que l'on est, ce que l'on veut faire, à quoi on ressemble. Donc c'est aussi toute une cohésion qui reste très grande par rapport au projet Overhive, et qui nous permet d'avoir un effet boule de neige, d'avoir de l'actualité. Donc c'est du plus, c'est toujours une grosse valeur ajoutée.
De quoi parlent les textes?
Alors les textes, c'est globalement l'histoire de John McDoug Greensdale, donc McDoug c'est son surnom. L'histoire commence au niveau de l'EP. Il est un ancien cascadeur, un peu sur la descente, qui s'est volé sa bagnole. Donc il y a toute une histoire, je ne vais pas tout décrire dans les détails pour vous garder un petit côté un peu commercial, c'est-à-dire que si les gens qui écoutent l'interview m'intéresse, je vous invite à écouter l'EP. Aussi acheter l'album, parce que dans l'album, le dépliant qui se trouve retrace l'histoire de Mad Boy comme un carnet de route. Et donc, ça permet d'avoir toute l'histoire qui se retrace par rapport à ça. Donc, il y a toute une cohésion dans les clips et surtout dans les paroles et dans les morceaux qui retracent un peu toute l'histoire.
Vous pensez éventuellement après faire des petits courts-métrages entre les albums pour donner une vie supplémentaire à votre personnage, ou vous le garderez à chaque fois uniquement pour la musique?
Non, c'est aussi une très bonne idée. Là, pour ça, c'est l'idée du court-métrage, c'est aussi quelque chose qu'on a fait déjà dans les cartons, donc je ne peux pas vraiment t'en dire plus, parce qu'on a tellement de choses et tellement d'actualités à travailler avant ça que c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est en effet une bonne idée, c'est des choses que l'on a dans les cartons, dans les futurs, on va dire, sur le moyen terme.
Pour l'instant, donc aujourd'hui journée promo, est-ce que vous avez déjà des dates de concert qui pourraient être annoncées, ou est-ce qu'il faudra attendre encore quelques jours pour pouvoir vous revoir sur scène, ou
vous On va attendre que quelques jours, parce que tenez la conjoncture, enfin tenez la situation comme on a parlé en intro, les interviews. Pour l'instant, c'est un peu difficile pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas pour nous, on est tous cachés à la même enseigne. Donc pour l'instant, tout est mis en suspens. Bon, nous n'avons pas de dates à annoncer, nous avons des annulations. Pour l'instant, rien. Et je pense qu'il va falloir attendre au moins un mois, voire deux mois. Et si deux mois, ça va revenir peut-être.
Okay. Pour suivre votre actualité, de toute façon, après, il y a bien sûr Internet. Vous avez votre page YouTube, votre page Facebook, vous avez votre propre site Internet. Tout est relayé sur les réseaux sociaux.
Absolument. En plus, on commence à arriver sur Twitter. Donc, pour tenir au courant, il y a le site, il y a le Facebook, il y a la page YouTube. Et le Twitter, c'est un peu qui commence, je crois. C'est-à-dire à grossir, ouais, absolument.
Je vais te citer 5 lieux et tu peux en choisir un pour y habiter. Tu peux choisir la caverne des pierres à feu, la forêt de Sherwood, le 221 bis Baker Street, la maison secrète d'Elvis en Antarctique ou le manoir de la famille Adams. Tu voudrais habiter où?
J'hésite entre la forêt et le manoir. Je pense que je vais devoir faire par le manoir, donc je fais le manoir.
Ouais, pourquoi?
Le côté obscur, le côté très noir, obscur. Le côté très dérision de la famille Adams. Donc tout ça me fait bien, il y a des antagonismes entre le noir, la mort, et de la mort et le côté sombre de la famille Adams, donc je suis envoyé un manoir.
Quelque chose que tu souhaiterais ajouter à destination des auditeurs?
Bah, comme je dis si bien à CBC,
It's a long way to rock and roll?
Yeah, tout à fait, absolument vrai. Donc pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui sont des causes, je n'ai jamais laissé tomber, la passion mène à tout, et tant qu'on a envie de mordre, tant qu'on a la passion, je crois que pas l'on mener, et peut-être qu'en 10 ans, on sera le Red au plus haut, et ça sera un bon exemple pour tous ceux qui ont envie de se mener là-dedans. C'est pas facile, c'est long, mais par contre, c'est un peu la vie.
Merci beaucoup.
Merci à toi, c'était vraiment plaisant.